Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Allez, 15h43, c'est la Bourse Cash qui s'ouvre tout de suite. Hortense Lacroix nous rejoint pour Arbevel. Bonjour Hortense.
Bonjour Guillaume.
Et bienvenue. Vous venez dire au marché, Hortense, leurs quatre vérités. Vous êtes sûr?
Tout à fait.
Pour vous, les sorties de la cote, c'est pas fini. Les fonds de private equity vont encore se régaler en bourse avec les petites valeurs. Vous l'assumez?
Complètement.
On voit déjà l'offre d'actions se tarir dans l'univers des small and mid cap avec pas mal de sorties de la cote parce que le private equity depuis des mois et des mois effectivement rachète un certain nombre de titres. Et vous venez aujourd'hui dire aux investisseurs, c'est pas fini, ce mouvement devrait se poursuivre.
On a eu un mois d'avril qui était une hécatombe. Si je prends uniquement les titres qui étaient investis dans les fonds chez Arbevel et uniquement ceux qui ont été rachetés par des private equity, donc je ne parle pas des sorties de cote par les dirigeants, on a Salsef en Italie dans l'entretien des réseaux ferroviaires, on a Enkavis sur la partie renouvelable en Allemagne, on a Darktrace sur la partie cybersécurité, on a Believe sur la partie droit audiovisuel, Nouveille sur la partie paiement, et on a Carnoff sur les services juridiques en un mois sur moins de 10 fonds. Donc on a vraiment une accélération considérable de ce mouvement des private equity sur les petites capitalisations cotées qui se comprend parfaitement parce qu'à la fois on a des multiples qui sont complètement décotés et en même temps on est sur un creux de cycle avec ces publications du premier trimestre. Donc vous avez des acteurs qui n'ont pas décoté parce qu'ils ont la chance d'avoir une volatilité qui est très limitée, qui ont des flux tout à fait favorables, précisément parce que les gens veulent éviter cette volatilité boursière. Et puis vous avez des autres qui sont doublement pénalisés. Donc forcément, le plus valorisé mange le moins valorisé.
Effectivement, ça s'appelle un rapport de force. Donc le private equity qui continue de se régaler, hein, c'est votre terme, sur le marché actions, en rachetant comme ça, en multipliant les offres sur les petites valeurs, parfois des moyennes. Et vous dites, on n'est encore pas au bout de ce mouvement, il devrait se poursuivre.
On n'est pas au bout parce que les écarts de valorisation sont considérables. Si on regarde un
petit peu... Et vous ne pensez pas... Est-ce qu'on se dit que finalement, il y a beaucoup aujourd'hui d'offensives de la part de l'univers du private equity sur le marché actions? Est-ce qu'on se dit que c'est parce que justement, cette décote dont vous nous parlez n'est plus amené à durer? Donc là, il y a une fenêtre qui va peut-être bientôt se refermer, ce qui expliquerait peut-être éventuellement cette multiplication des opérations avant que la fenêtre ne se referme.
Je voudrais tellement vous croire qu'effectivement, cette accélération marque une espèce d'effervescence parce que le T1 serait un point bas. Ce qui est effectivement ce que nous disent les entreprises quand on écoute les publications. Mais on a un tel écart de valorisation que même si cet écart commençait à se combler, on pense qu'on a encore une fenêtre. Et justement, si on marquait la fin d'une opportunité, on pense qu'il y aurait une précipitation qui s'accroîtrait encore de la part des fonds de private equity sur les petites valeurs cotées.
Quelles sont les prochaines cibles? Alors, vous dites, ça va se poursuivre, le private equity continue de s'intéresser au marché actions. Quelles seront les prochaines cibles du private equity?
C'est une question très difficile, évidemment. Personne n'a la boule de cristal, mais si on essaie de tirer un petit peu les fils de ce qu'on a vu au mois d'avril, on a certains secteurs qui cumulent, en fait, un désamour des investisseurs depuis longtemps, qui fait que les valorisations commencent vraiment à être à des points d'aberration. Le premier secteur, on en a déjà parlé sur votre plateau, c'est le secteur des renouvelables. Donc beaucoup d'acteurs du renouvelable sont pressentis comme étant des cibles idéales pour le private equity puisque c'est un secteur qui est quand même assez visible en cash flow, donc ça a tout à fait le profil. Donc on peut citer au titre des renouvelables Grenergy en Espagne, on peut citer Neoen qui fait quand même la une des journaux sous un angle spéculatif en France depuis quelques semaines. On a également Solaria en Espagne qui n'a pas d'actionnaire, enfin qui a un actionnaire de référence plutôt qui, paraît-il, serait disposé éventuellement à arrêter son aventure boursière. Donc ça, c'est le secteur des renouvelables. Si on tire le secteur des paiements où on a eu Nouveille en avril, on pourrait très bien avoir Nexi Ça fait longtemps qu'on en parle. On pourrait, en cybersécurité, où on a eu Darktrace le mois dernier, on a Exclusive Networks, qui a été cité comme étant une cible potentielle. Et enfin, dans le secteur pharmaceutique, aujourd'hui, la rumeur était autour de Rovi, société familiale espagnole, qui vient de décrocher des contrats de sous-traitance intéressants de production de médicaments et qui est pressenti également pour intéresser des fonds, toujours de private equity.
15h48, c'est Aude Kersulec qui nous appelle en direct effectivement depuis le cœur de cette séance. C'est la tour Euronext. Rebonjour Aude, parce que on commence la semaine en mode, alors, sans mauvais jeu de mots, en mode ascension. Le CAC est en progression aujourd'hui.
Oui, en mode ascension, avec quand même peu de volume, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de marchés fermés, dont celui de Londres. Mais comme un lundi, on monte quand même assez bien, plus 0,4%, 7992 points, sachant qu'on est déjà allé passer au-dessus des 8000 points ce matin. Alors, qu'est-ce qui nous fait monter aussi ce matin en Europe? C'est les PMI finaux, notamment services et composites, qui sont plus élevés que prévus. Ceux de la zone euro pour le service, il est à 53,3. Le précédent était à 51,5. Et puis, le composite est à 51,7 quand le précédent était 50,3, donc une bonne nouvelle sur le front macroéconomie. Et puis on monte évidemment dans le sillage de Wall Street, des chiffres de l'emploi qui nous font revivre ce scénario de baisse des taux. Alors maintenant c'est plus l'été pour les baisses des taux de la réserve fédérale, mais plutôt peut-être septembre ou novembre que les investisseurs remettent sur la table. Et voilà donc notre hausse du jour expliquée.
Effectivement, Aude, vous nous rappelez, hein, quand vous le souhaitez, bien sûr, depuis la tour Euronext. Hortense, vous nous accompagnez aussi, et vous tous également, bien sûr, là en direct. On est ensemble et on est bien à la radio et à la télé. Mais vous pouvez aussi, vous le savez, nous suivre sur les réseaux sociaux. Le fil XBFM Bourse, n'hésitez pas à vous y abonner. Le fil LinkedIn également, il est pas mal. N'hésitez pas à vous y abonner aussi, parce qu'on vous interroge et vous pouvez participer. On rebondit d'ailleurs aussi sur vos arguments, ceux que vous nous laissez sur nos réseaux sociaux. La question du jour qu'on vous pose, elle concerne la visite de Xi Jinping à Paris. Xi Jinping est en ce moment même dans le cœur de la capitale. Il est aux Invalides, là, alors qu'il est avec le président de la République, Emmanuel Macron. Et la question qu'on vous pose, donc, quel secteur va, d'après vous, refaire de la Chine un levier? Quel secteur pourrait enfin, effectivement, par ses activités en Chine, trouver à nouveau du potentiel de croissance pour la suite? Est-ce que ce sera le secteur des spiritueux, celui du luxe, l'aéronautique ou encore le tourisme? Et vous avez été nombreux à voter, continuez, nous laissez vos arguments en commentaire. Hortense, quel secteur va enfin parvenir à refaire de la Chine, après des mois de ralentissement quand même en Chine, un levier?
Alors c'est une question intéressante, et les quatre secteurs que vous proposez sont certainement des leviers pour bénéficier de ce rebond de la Chine. On ne croit pas évidemment à un rebond de la construction en Chine, mais le consommateur chinois effectivement va avoir un levier sur l'aéronautique, sur le tourisme, etc. J'ajouterais deux secteurs par rapport à la liste que vous avez proposée. D'une part les métaux, parce qu'on sait sur certains métaux, la Chine représente la moitié de la consommation mondiale. Elle a quand même beaucoup baissé sa consommation sur les derniers mois. Si elle venait à revenir, étant donné que l'offre est très contrainte, on pourrait avoir une tension assez forte. Donc aller explorer aussi l'angle des métaux pourrait être intéressant. Et puis sur la partie auto, véhicules électriques également, les sociétés comme BYD qui sont extrêmement bien positionnées avec des parts de marché très fortes.
Mais c'est le grand méchant loup là pour nos constructeurs français, les constructeurs. Alors, automobiles chinois,
on parle du consommateur chinois qui se réveille. Donc pour l'instant, j'ai un angle purement domestique.
On est très content pour lui. Mais enfin, en bourse, là, je suis investisseur comme ça sur le marché, je vais le consommateur chinois, je suis ravi pour lui, vraiment, ce que vous nous dites. Mais je suis investisseur, qu'est-ce que je fais? Dans quel secteur vous voyez, effectivement, alors le secteur minier, les métaux, vous le disiez, qui devrait bénéficier de la consommation et peut-être d'une réaccélération chinoise. Enfin, le consommateur chinois, BYD, devrait en profiter. Je suis très content pour BYD, mais je suis investisseur en France, comment je fais?
Si vous ne pouvez investir que sur le marché français, effectivement, BYD n'a pas d'ADR en France, il a des ADR en US. Le secteur du luxe a montré quelques signes d'essoufflement. On l'a quand même vu avec Hermès qui a très bien publié et qui a commencé à trouver un petit peu ses limites. Après quand même des années de très forte hausse, le marché s'est concentré vraiment sur ce secteur-là. Donc c'est évidemment un levier pour le consommateur chinois, mais j'aurais tendance à penser que c'est un petit peu dangereux. Le secteur des spiritueux est poursuivi pour des ententes sur les prix. Il y a un consommateur chinois qui a un levier très important sur des Rémy Cointreau et autres, mais c'est un secteur qui n'est pas sans ombre.
Oui, comme vous dites, hein, les exportateurs français d'alcool, comme Rémy Cointreau, vous l'avez cité au Pernod Ricard, font l'objet en Chine d'une enquête anti-dumping depuis quelques mois. Alors, c'est peut-être d'ailleurs sur la table des discussions là aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, peut-être essayer de limiter, en tout cas de lever ces enquêtes, mais c'est vrai que ça a été un énorme frein à la hausse de ces acteurs, Pernod Ricard et Rémy Cointreau, en bourse. Ça leur a mis vraiment un coup de froid, un coup d'épée là, dans le dos, effectivement, ça a été dur. Et bon, vous dites, le réveil du consommateur chinois, Pernod Ricard et Rémy Cointreau, pourquoi pas, surtout si ces enquêtes anti-dumping venaient on verra, on espère peut-être finir par s'envoler, on verra, ça fait partie de ce rapport de force, mais il y a trop d'ombre quand même, c'est ce que vous étiez en train de dire.
Exactement. C'est pas aussi simple que ça peut en avoir l'air. Il y a un jeu politique qui s'ajoute simplement au pur comportement du consommateur chinois. Donc effectivement, la partie tourisme aéronautique est assez tentante parce qu'on a un consommateur... ce n'est pas dénué non plus de risques politiques. Hein. Il faut que le gouvernement délivre les visas pour que les Chinois qui voyagent déjà au niveau domestique aient le droit de voyager au niveau long courrier. Et à ce moment-là, ça aura un effet considérable sur le trafic aéronautique qui est à peu près 20% en dessous de ces niveaux de 2019 pour le trafic long courrier, alors qu'il est déjà au-dessus de ces niveaux de 2019 pour le court courrier. Donc il y a effectivement ce levier du touriste chinois qui pourrait avoir un effet intéressant. On sait néanmoins qu'on a du mal à livrer les avions, donc ce n'est pas forcément qu'un problème d'offre non plus pour aller faire monter Airbus.
Non, effectivement. Ouais. Donc l'aéronautique, le tourisme, pourquoi pas, parmi les secteurs gagnants avec cette Chine, dont on espère que le consommateur y retrouvera confiance. C'est aussi ce qui porterait le consommateur chinois à venir voyager, pourquoi pas, et utiliser des longs courriers davantage que les courts courriers. Donc pourquoi pas un potentiel là-dessus ? Pourquoi pas le luxe aussi, mais je me sens assez prudente, c'est pour les raisons de valorisation.
C'est un secteur qui a quand même beaucoup, beaucoup performé, qui a concentré énormément de la performance du marché. D'accord. Et on a un consommateur qui commence à se réveiller. On a eu beaucoup d'intrading sur le consommateur moyen. Ce serait dommage de continuer de s'abriter sur ce consommateur très, très premium qui est le luxe, qui nous a mis à l'abri pendant toutes les années difficiles, au moment où on a l'impression qu'on repart un peu sur la consommation.
Et vous tous qui nous suivez, alors c'est le luxe pour le coup. Vous estimez, c'est la question qu'on vous pose, quel secteur va refaire de la Chine un levier pour sa croissance et un levier boursier ? Vous estimez à 41% que ce sera d'abord le luxe. Et à 22%, donc deux fois moins nombreux sur les spiritueux. Voilà, Pernod Ricard et Rémy Cointreau qui, c'est vrai, pour l'instant, restent plombés par cette enquête anti-dumping. Et puis, alors le tourisme, vous le mettez en tête, Hortense, mais ce n'est pas le cas de nos auditeurs qui le mettent en dernière position à 18-19%. Ouais. Et les constructeurs, là, c'est compliqué. Enfin, on n'a même pas osé proposer nos constructeurs automobiles à nos auditeurs. Peut-être parce que, pour le coup, la Chine, pour nos constructeurs automobiles, c'est le loup dans la bergerie, clairement.
Non, effectivement. C'est énorme menace. C'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne.
Oui. Par contre, si vous pouvez investir dans BYD, ben pourquoi pas, là, pour le coup, BYD. Dit qui est en production de véhicules électriques est passé, on le rappelle, devant Tesla. Les publications, on arrive bientôt au bout d'ailleurs, on n'en aura que quelques-unes cette semaine sur le CAC, Alstom, Bouygues demain et Alstom mercredi. Quelle a été dans cette saison de publication votre coup de cœur, quoi, enfin la valeur dont la publication vous a le plus enthousiasmé, Hortense?
Alors si on... Donc, je vais appeler publication à la fois les chiffres purs et simples de ce premier trimestre et surtout le discours que les entreprises nous délivrent pour ce qu'elles voient venir dans leur carnet de commandes lors des calls qui sont organisés suite aux publications. C'est le secteur, moi, des biens de construction, des matériaux de construction qui m'a le plus surprise, ainsi que le consommateur. Donc matériaux de construction... on a une traversée du désert qui est quand même extrêmement longue. Ça fait 18 mois que ce sont des sociétés qui sont avec des baisses de volume. Un secteur qui a réussi à tenir ses prix malgré tout dans un contexte de forte tension sur les volumes et qui maintenant commence à avoir des signes de redémarrage de volume tout en maintenant les niveaux de prix qui leur ont permis d'avoir des marges historiques. Donc ça pourrait être une période tout à fait propice pour un secteur qui est encore extrêmement décoté parce que cyclique, parce qu'on n'a pas encore eu de baisse de taux et personne n'a vraiment envie de se jeter sur les promoteurs immobiliers. Et puis deuxième secteur, peut-être le consommateur, on en parlait, donc non pas le consommateur du luxe, hein, mais le consommateur de base, c'est-à-dire les lessives, l'agroalimentaire, la consommation de base qui s'oppose à la consommation discrétionnaire. En fait, on a eu des sociétés qui n'ont cessé de se plaindre de ce qu'elles appellent un downtrading. Ça veut dire que le panier de la ménagère se remplit avec des choses, des marques propres, des produits de moins en moins sophistiqués pour essayer d'économiser sur ce panier. gagner. Et pour la première fois, lors de cette saison de publication, on a entendu des sociétés comme Novonesis, qui est la fusion entre Novozym et Christian Hansen, qui vous expliquent qu'ils arrivent à faire 18% de croissance sur des détergents et qu'ils arrivent à faire 12% de croissance sur de l'alimentaire.
Wow.
Et ils disent, en fait, on a tenté des innovations qui ont été pricées assez chères et le consommateur est ouvert à acheter des innovations. Ce qui me paraît être, en fait, un tournant assez intéressant sur le comportement du consommateur.
Et à l'inverse, votre plus grande déception sur cette saison de publication ?
On a été déçus par le secteur des services informatiques, conseils, innovation, sous-traitance de l'innovation, oui. les Sopra, les Alten, les Wavestone, qui font face non seulement à un trimestre un petit peu difficile, ça c'était largement attendu, on a moins de jours ouvrés que l'année dernière, c'était un trimestre qui était avec des commandes assez faibles, mais on s'attendait à ce qu'elles aient un discours qu'on entend dans la plupart des entreprises, le premier trimestre sera un point bas, et puis ensuite, on voit que ça redémarre. Or, ça n'a pas du tout été le cas, malheureusement, elles ont un discours très très prudent pour les trimestres à venir, et elles vous expliquent que tout ce qu'on attendait, que l'investisseur a tendance à magnifier un petit peu, qui est l'avènement de l'intelligence artificielle dans les entreprises, l'industrie 4.0, la digitalisation, tout ça sont des projets qui sont importants en amplitude, en ampleur, et qui du coup sont sans cesse reportés en fait parce qu'on n'a pas eu de baisse des taux, on a une priorité au désendettement qui continue de se faire sentir.
Merci beaucoup Hortense. Votre franc-parler, Arbevel régulièrement à nos côtés, Hortense Lacroix, et on rappelle hein, votre message aux investisseurs dans la Bourse Cash aujourd'hui, le private equity n'a pas fini de se régaler hein, sur l'univers des petites et moyennes valeurs, sans doute encore pas mal d'opérations à venir, pourquoi pas d'acquisitions, et vous citiez quelques valeurs et secteurs particulièrement exposés, ce sera retrouvé en replay sur notre site BFM Bourse et notre application BFM Business. Merci Hortense.
Merci Guillaume.